France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La Russie libère Laurent Vinatier, le chercheur français emprisonné depuis un an et demi. Sa libération a fait l'objet d'un échange puisque Paris a relâché un basketteur russe détenu en France à la demande des États-Unis. Nouvelle manifestation ce soir à Minneapolis après la mort d'une femme tuée par la police américaine de l'immigration hier. Légitime défense, affirme Donald Trump. Elle ne constituait pas une menace, répond le maire démocrate de la ville. Le budget de retour à l'Assemblée nationale, mais il n'y a toujours pas de majorité pour voter le projet de loi de finances 2026. Le gouvernement, sans le dire, se prépare à l'éventuel recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte. À 18h15, maire pour quoi faire, notre rendez-vous avant les élections municipales. Aujourd'hui, les budgets culture et sport des communes à l'épreuve de la disette budgétaire. Laurent Vinatier est libre, il est rentré en France. La Russie a libéré aujourd'hui le chercheur français qu'elle détenait depuis juin 2024. La justice russe l'accusait d'espionnage. Elle lui reprochait aussi de ne pas s'être déclaré auprès des autorités en tant que membre d'une ONG suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire. Il s'agit en réalité d'un échange de prisonniers puisque la France a libéré de son côté un basketteur russe, Daniil Kazatkin, détenu sur le sol français depuis 6 mois, à la demande de la justice américaine. Washington qui soupçonne ce basketteur d'appartenir à un groupe de hackers pro-Kremlin. Vladimir Poutine a finalement gracié Laurent Vinatier. Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
C'est par une dépêche en fin d'après-midi que l'on a appris la libération de Laurent Vinatier en vertu d'un décret présidentiel. Ensuite, le journal télévisé de la chaîne d'information en continu, Rassia 24, a diffusé des images de ce chercheur dans un couloir de prison alors qu'on lui annonçait sa libération. La caméra l'a ensuite suivi dans le véhicule qui l'amenait à un aéroport et puis les dernières images diffusées par la télévision russe le montraient en train de monter dans un jet à destination de Paris très probablement. Mais ici à Moscou, les médias saluent plutôt la libération de Daniil Kazatkin. Fin juin, ce basketteur russe de 25 ans avait été arrêté à Paris et placé en détention à la demande des États-Unis qui l'accusaient de piraterie informatique. Depuis l'automne, Laurent Vinatier faisait face à des accusations d'espionnage qui auraient pu lui coûter 20 années de prison supplémentaires. Une situation qui avait poussé ses proches à sortir du silence et à réclamer sa libération. Au lendemain du Noël orthodoxe, c'est désormais chose faite. La fin d'un calvaire d'une année et demie pour ce chercheur français actif dans la diplomatie parallèle.
Jean-Didier Revoin, correspondant en Russie. Alors la France a toujours contesté les accusations russes contre Laurent Vinatier. Ce soir, le comité de soutien aux chercheurs se réjouit de sa libération. D'autant plus qu'elle se double d'un pied de nez aux États-Unis de Donald Trump. C'est l'analyse de Cécile Vessier, chercheuse spécialiste de la Russie à l'université Rennes 2. Elle fait partie du comité de soutien à Laurent Vinatier.
C'est une annonce qu'on espérait, en tout cas, et qui a de quoi réjouir, je crois, tout le monde. On l'espérait, on se demandait un petit peu quelle serait la monnaie d'échange, parce que la question portait beaucoup là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse dans cet échange, c'est que finalement, on renvoie quelqu'un qui était demandé par les États-Unis. C'est-à-dire que c'est aussi un message au président américain en disant « nous, on veut récupérer notre compatriote, finalement, parce qu'on a d'autres Russes qui sont dans des prisons françaises, finalement, celui-là, ce Kazatkin, il était demandé par les États-Unis, on le renvoie, donc on n'a pas de fleurs particulières à faire aux États-Unis non plus. Ça ne s'inscrit pas pour moi dans un rapprochement avec la Russie, ça s'inscrit dans un échange de procédés, je dirais malheureusement un peu courant, où on s'échange des gens considérés à tort ou à raison comme des espions. Et là, le deuxième point qui est intéressant avec Kazatkin, c'est outre le fait qu'il était demandé par les États-Unis, c'est le fait que, a priori, c'était un hacker. Donc, ce qui semblerait confirmer que l'État russe en général et le FSB en particulier tiennent effectivement à revoir leur hacker revenir à la maison. Donc, il y a un double message, je dirais, qui rend encore un peu plus piquant cette libération qui, encore une fois, doit nous réjouir tous.
La chercheuse Cécile Vessier sur l'antenne de France Info qui s'exprimait donc après la libération du chercheur français Laurent Vinatier. La tension ne faiblit pas à Minneapolis après la mort d'une femme hier, tuée par un agent de l'ICE, la police américaine de l'immigration, dont Donald Trump a considérablement renforcé les pouvoirs. Le policier a agi en légitime défense, a immédiatement affirmé le président américain. Cette femme ne menaçait personne, a répliqué le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey. Nous sommes avec Gwendal Lavina, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Gwendal, de nouvelles manifestations ont lieu en ce moment à Minneapolis. Mais tout d'abord, que sait-on de cette mère de famille abattue hier par la police de l'immigration ?
Elle s'appelait Renée Nicole Goud et elle avait 37 ans. C'était une poète. Elle avait d'ailleurs gagné un prix de poésie en 2020. Originaire du Colorado, elle habitait Minneapolis avec ses trois enfants. Dans la presse, son père raconte qu'elle était une personne formidable qui n'avait pas une vie facile. Selon les autorités de la ville, elle s'investissait dans sa communauté et n'hésitait pas à donner de son temps. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, affirme qu'elle n'était pas la cible d'un raid d'ICE sans donner de détails sur ce qu'elle faisait sur place au moment du drame. Mais depuis hier, une forte colère s'exprime. Des affrontements ont encore éclaté ce matin entre les forces de l'ordre et des manifestants rassemblés devant un bâtiment fédéral. Ils dénoncent un assassinat, mais aussi la façon dont l'administration Trump s'empare de l'événement. Car il y a d'un côté la version officielle, en tout cas celle que partagent le président américain et sa ministre de l'Intérieur, Kristi Noem. Il s'agit selon eux d'un acte de terrorisme et Renée Nicole Goud aurait tenté de foncer sur l'agent de l'ICE avec sa voiture. Quelques minutes seulement après le drame, Kristi Noem dénonçait d'ailleurs une nouvelle attaque contre les forces de l'ordre et affirmait que l'agent avait agi en légitime défense. Sur les vidéos de la scène disponibles, on voit pourtant que la victime tentait de quitter les lieux. Elle braque d'ailleurs vers la droite et commence à avancer. L'agent de l'ICE n'est donc plus devant son capot mais à côté lorsqu'il ouvre le feu à plusieurs reprises. La voiture avance alors toute seule quelques mètres avant de s'encastrer dans un poteau électrique sous les cris de plusieurs personnes témoins de la scène.
Gwendal Lavina en direct de New York. Merci. Et revoilà le budget. Les députés ont repris aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Depuis ce matin, le texte est de retour en commission des finances avant son examen dans l'hémicycle la semaine prochaine. Le gouvernement Lecornu veut aller vite. Il vise un budget pour la fin du mois. Petit problème, plus personne ne croit à la possibilité de son adoption, faute de majorité dans une assemblée éclatée. C'est pourquoi le recours à l'article 49.3 de la Constitution semble inéluctable. Rosalie Lafargue, bonsoir.
Bonsoir.
Une hypothèse, Rosalie, que l'exécutif n'écarte plus.
La question ne semble plus vraiment. Aura-t-on recours au 49.3 pour le gouvernement ? Mais quand ? Pas dès le début des discussions en séance la semaine prochaine, selon la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.
Si on coupe court à un débat et que, vous voyez, on fait des accords, entre guillemets, de couloir, bah, vous aurez légitimement pas mal d'acteurs qui diront « Mais c'est quoi ces affaires ? Où est la démocratie ?» Et je pense que ça a la valeur que les choses se fassent aussi de manière ouverte et transparente. Nous souhaitons aussi faire un peu, j'allais dire, bas les masques sur les positions des uns et des autres. Et donc moi, je pense qu'il y a une valeur à ce que nous commencions, même que nous allions au bout des travaux de la première partie, que nous fassions les choses avec méthode. Et je pense qu'on n'est pas à deux jours près.
Dans l'espoir de parvenir à un accord, non pas pour que ce budget soit voté, tout le monde a bien compris que ça n'avait quasiment aucune chance d'arriver, mais pour que, si le gouvernement engage sa responsabilité, les socialistes acceptent de ne pas le renverser.
Si vous n'avez pas d'accord politique, vous pouvez brandir tous les articles de la Constitution. Si à la fin, ce qui se passe, c'est que vous n'avez toujours pas de budget et qu'en plus, vous avez un gouvernement qui tombe, je ne vois pas très bien en quoi ça aide le pays. Donc d'abord, là, on travaille sur le fond. On stabilise un point d'équilibre. Moi, je ne sais pas à quel moment le compromis émerge.
Les plus de 4 heures de réunion à Bercy mardi soir entre les ministres et les groupes à la recherche d'un accord n'ont pas permis d'aboutir, pas encore. Mais le gouvernement évoque un travail constructif et à en croire Amélie de Montchalin, ce compromis, nous n'en sommes pas loin.
Rosalie Lafarge, merci. On vous retrouve dans quelques minutes pour notre rendez-vous consacré au municipal. Le maire, pourquoi faire ? Les agriculteurs sont entrés dans Paris. Plusieurs centaines d'entre eux ont réussi à rallier l'Assemblée. Ils ont même réussi à faire entrer dans la capitale quelques dizaines de tracteurs, malgré les barrages des forces de l'ordre. À la tête de la contestation, la coordination rurale, mobilisée contre deux sujets principaux, l'abattage des troupeaux atteints de dermatose et la probable signature de l'accord entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Les agriculteurs rassemblés devant le Palais Bourbon ont chahuté la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, venue à leur rencontre. Certains l'ont même insulté. Des agriculteurs qui attendent maintenant des réponses du gouvernement. Et vous êtes à leur côté, Lauriane Delanoë.
Oui, ils viennent de passer des heures dans le froid, leurs bonnets jaunes trempés par la pluie. Plusieurs dizaines, quelques centaines peut-être d'agriculteurs qui attendent sur le trottoir entre d'un côté les grilles de l'Assemblée et de l'autre les fourgons de police. Ils attendent des réponses des politiques, mais José Pérez, le président de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, sort déçu d'un rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture.
Il y a des agriculteurs, ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir porter les revendications. On en est au même point qu'hier. Nous, on a vu Mme Genevard, la ministre de l'Agriculture. Hein. A priori, elle a dit qu'elle allait essayer de faire des annonces. Enfin, nous, là, on est 1000 agriculteurs sur Paris. Si rien n'est annoncé, comment vous dire que c'est impossible que nos agriculteurs partent d'ici? C'est pas possible.
Parmi les revendications, la coordination rurale demande un moratoire sur les contrôles dans les exploitations. Le syndicat réclame la fin de l'abattage systématique des troupeaux quand une vache dans le troupeau est touchée par la dermatose nodulaire. Et dans le rassemblement, il y a aussi bien sûr cette revendication principale.
Ne pas signer ce traité de Mercosur.
Philippe Lomer est entrepreneur de travaux agricoles dans l'Orne en Normandie, fils et père d'agriculteurs.
Les politiques mettent toujours des normes plus élevées et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ils sont prêts à signer des accords avec des pays étrangers qui ne respectent pas ce que nous on applique en France. Et même dans l'Europe, on accorde aussi des pays qui appliquent des produits phytosanitaires que nous en France on n'applique plus. Personne ne bouge. Il faut que l'État se réveille.
Et après cette journée de mobilisation, la nuit est maintenant tombée. Le président de la coordination rurale vient de passer voir ses troupes, Bertrand Vanteau, qui appelle les agriculteurs à maintenant rentrer chez eux pour se reposer, car dit-il, le combat est encore long.
Lauriane Delanoë, et selon une information de France Inter, Emmanuel Macron a décidé de voter contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, selon des sources concordantes. Un vote est prévu demain à Bruxelles au niveau européen. L'industrie du son compte dans l'économie française, c'est ce que montre une étude publiée ce matin par le cabinet Asterès. On parle là de l'industrie musicale, mais pas uniquement. Cette étude a été publiée en amont de la Semaine du son, un événement chapeauté par l'UNESCO à partir du 19 janvier. Louis-Valentin Lopez, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
140 000 emplois et 43 milliards d'euros, c'est ce que représente l'industrie du son en France, avec une croissance soutenue, plus 15% en 5 ans. L'industrie du son, cela comprend les télécoms, secteur qui pèse le plus lourd, l'ingénierie acoustique, mais aussi le secteur culturel, la musique notamment. La croissance de la musique enregistrée bondit de 75% grâce à l'explosion du streaming. La création sonore aussi s'envole, plus 60%. À noter la bonne santé des créations dites hybrides, c'est-à-dire le son créé pour le spectacle vivant ou encore les jeux vidéo. Le son radio aussi se porte très bien, même si les audiences globales du média baissent. Son contenu sonore lui reste en croissance, plus 50%, notamment grâce au numérique et au podcast. On peut mentionner enfin l'essor assez spectaculaire des livres audio, plus 164% en 5 ans. La Semaine du son qui a commandé cette étude nous dit surveiller attentivement ces évolutions. C'est aussi une ONG dite de plaidoyer qui plaide donc notamment auprès des politiques pour une meilleure prise en charge du son et de ses enjeux. Si elle se félicite de l'essor économique du secteur, elle met aussi en garde contre ses dérives. La santé auditive en baisse, notamment chez les jeunes. L'arrivée de l'intelligence artificielle aussi qui pourrait nous déposséder de notre sonore, alerte l'ONG. Elle compte d'ailleurs à ce sujet déposer une résolution auprès du Conseil exécutif de l'UNESCO pour alerter sur l'usurpation des voix par l'IA.
Louis-Valentin Lopez, merci. Après la neige, la tempête, la France s'apprête à essuyer ce que certains spécialistes appellent une véritable bombe météorologique. Avec cette tempête Goretti, c'est son nom, les vents pourraient dépasser les 150 km/h sur le littoral. La Alix Roumaniac est le président de Predict Service, une société spécialisée dans l'accompagnement aux risques climatiques.
On donne le nom de bombe météorologique à une dépression qui va se créer, se creuser très rapidement. Et c'est ce qui la rend très dangereuse, parce qu'en fait, ce n'est pas comme un cyclone que l'on voit arriver de très loin, que l'on suit à partir d'images satellites sur des centaines et milliers de kilomètres. Là, Goretti n'existe pas encore et va se créer très rapidement en arrivant près des îles britanniques et en moins de 24 heures elle va générer des vents à plus de 160 km/h et de manière très brutale. C'est pas fréquent, ce qui est particulier, c'est que aujourd'hui tous les experts Météo France indiquent que le dérèglement climatique n'influe pas forcément sur la fréquence de ces événements, de ces bombes météorologiques. Par contre, de manière indirecte, ça influe un peu parce que ces bombes météorologiques, ces tempêtes, génèrent des vents très forts, des coups de mer avec une surcôte liée à la dépression, des vagues très importantes. Hein, pour Goretti, on parle d'une surcôte de 2 mètres et des vagues qui peuvent aller à la côte de 6 à 8 mètres. Donc, c'est très important. Et le fait que le dérèglement climatique fasse augmenter le niveau de la mer déjà, donc les conséquences de ces tempêtes vont être plus fortes.
Des propos recueillis par Véronique Robérotte pour les prochaines heures et pour demain. Météo France place le département de la Manche en vigilance rouge au vent. En raison de cette tempête Goretti, 32 autres départements sont en vigilance orange pour le vent sur une large moitié ouest. Demain matin, toujours des gelées à l'est de 1 à 9 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera de 4 à 15 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Les budgets culture et sport des communes sont-ils menacés à l'heure où l'argent manque ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans Maire Pourquoi Faire, le rendez-vous hebdomadaire de France Culture jusqu'aux élections municipales du mois de mars. Dans un contexte budgétaire national contraint, maintenir des investissements conséquents dans ces deux domaines est un choix que tous les maires ne peuvent pas faire. C'est un reportage de Rosalie Lafarge.
Investir dans la culture et le sport au niveau municipal ne fait pas toujours d'emblée l'unanimité.
Moi, je suis à fond sur le modèle scandinave. Tous les enfants doivent pratiquer de la culture, mais vraiment, et dans le cadre scolaire.
Florence Portelli est la maire LR des 27 000 habitants de Taverny, dans le Val d'Oise.
Au départ, je vous avoue que quand on a fait, par exemple, des classes bois, cordes, comédie musicale, je pensais que les parents allaient être ravis. Certains m'ont pris un peu pour une hurluberlue. Ils se sont dit parce qu'elle est pianiste, elle est complètement siphonnée. Mais au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que c'était extraordinaire pour leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, dans une société où les enfants doutent beaucoup de recouvrer de la dignité, de la fierté et également le sens de l'altérité, parce que quand vous jouez à plusieurs, vous écoutez l'autre. Je vous assure qu'on se rend vite compte que c'est pas inutile et aujourd'hui j'ai toute la population de ma ville qui adhère.
Le sujet a occupé une longue table ronde au dernier congrès des maires de France et de nombreux élus ont témoigné de l'intérêt de ces politiques publiques, pas seulement dans les grandes villes, dans sa petite commune de Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne.
5000 hectares, 76 hameaux, un bourg-centre qui doit avoir 200 habitants au max, coupé en deux par une autoroute.
Christine Deneville, la maire, mise beaucoup sur le sport et la culture.
Moi j'ai que ça pour faire de la cohésion territoriale. J'ai une école, sauf que ramasser les enfants, c'est un transport scolaire, donc je ne vois jamais les parents. Et ce n'est pas en réparant les nids de poules que je vais faire de la cohésion territoriale.
C'est de l'argent investi, certes, mais il évite bien d'autres dépenses, plaident ces élus convaincus. Et on a encore de la marge pour l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, désormais présidente du comité olympique et sportif.
Notre pays, confronté à de telles difficultés budgétaires, il engloutit 160 milliards d'euros par an dans la sédentarité et l'inactivité physique. Vous savez ce qu'on peut faire avec 160 milliards d'euros par an ? On peut reconstruire 1500 hôpitaux, offrir à chacune des communes de France un gymnase au meilleur standard et on peut rénover l'ensemble du parc d'équipements du pays.
Mais c'est une histoire de choix politique et pas seulement au niveau local. L'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, dénonce un budget sport de l'État en diminution constante et des dispositifs d'aide à l'investissement qui s'amenuisent malgré toutes les promesses faites au moment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Le président de l'ANDES, Patrick Appéré.
On avait dit il y aura un héritage et on va relancer la machine pour le sport. La France, grande nation du sport, etc., etc. Et puis vous avez vu comme moi, on a regardé le notaire et puis il avait paumé le testament.
À ce désengagement de l'État pointé du doigt s'ajoute parfois celui des autres collectivités puisque les compétences sport et culture sont partagées par les régions, les départements et les communes. De quoi nourrir quelques inquiétudes mais aussi plaider pour de nécessaires adaptations.
On n'aura pas le choix.
Vice-président de l'Agence nationale du sport, David Lazarus, est le maire d'hiver gauche de Chambly dans l'Oise.
De toute façon, la pratique sportive a évolué dans le temps puisqu'on est passé d'une pratique qui était à 100% bénévoles et pas forcément avec des éducateurs sportifs. Aujourd'hui, tous nos clubs ont des éducateurs sportifs, des gens qui sont diplômés, donc souvent qu'il faut rémunérer. Donc on voit bien que ça a changé en termes de modèle. Et ce modèle-là doit encore évoluer parce qu'il y a des endroits dans lesquels le privé, le partenaire privé, sait faire, peut nous accompagner. À titre d'exemple, est-ce que c'est obligatoirement aux communes de développer les terrains de paddle ou est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur des projets privés dans lesquels on réserverait des créneaux pour le club de tennis ? Voilà, c'est un exemple typique de ce que l'on doit pouvoir faire. Et il va falloir de toute façon sortir des limites qu'on s'était jusqu'à présent fixées pour pouvoir aller trouver demain des financements alternatifs et innovants.
Question qui se pose aussi dans le domaine culturel, puisque même si selon une récente enquête de l'Association des maires de France, les budgets culture des communes ont globalement pu être maintenus jusqu'ici, les élus se disent très préoccupés par leur capacité à pouvoir continuer à engager des projets.
Des politiques facultatives et donc fragiles, c'est aussi parce que l'on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, des éléments difficiles à chiffrer, à matérialiser et donc à faire accepter. C'est ce que souligne Olivier Peverelli, maire socialiste du Teil en Ardèche. Il co-préside la commission culture à l'Association des maires de France. Olivier Peverelli répond à Rosalie Lafarge.
Si on n'explique pas les choses, c'est quelquefois difficilement compréhensible quand on investit. Si on n'explique pas les vertus que peuvent avoir la pratique d'un instrument musical, si on n'explique pas que le sport ça a des vertus pour l'individu, si on n'explique pas, on aura toujours un récalcitrant pour dire que ça sert à rien. Mais notre rôle, c'est aussi d'expliquer les choses et de ne pas se laisser enfermer dans de mauvaises statistiques. C'est pas le nombre qui fait la qualité. D'abord, on doit pouvoir répondre à tous les habitants. Tout le monde n'ira pas au cinéma, ok ? Mais tout le monde n'ira pas au stade. Mais sauf qu'il faut que dans une commune, chacun puisse bénéficier des ressources dont il a envie et qui s'autorise à aller dans ces équipements ou dans ces pratiques-là, même s'il y a d'autres pratiques qu'il ne veut pas. Et la cohésion, c'est ça. La cohésion, c'est de répondre un peu aux besoins et aux envies de chaque habitant en essayant de le faire de manière collective pour qu'il y ait un récit collectif qui s'installe. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est limité à une minorité qu'on ne doit pas le faire. C'est faux, ça. Parce qu'après, il n'y a plus de cohésion. Quand on est dans une ville où on ne s'y retrouve pas, on n'a pas envie d'y rester, ou ça crée un malaise, et on a besoin de ces récits collectifs. Donc, si on ne reconnaît pas les gens, les habitants dans leur entité, c'est là où on crée un problème, quelquefois vis-à-vis de l'institution.
Sauf que ça coûte cher, ça dépend de la taille des communes, mais globalement, ce sont des investissements importants, et qu'on nous explique aujourd'hui, au niveau national notamment, qu'il n'y a plus d'argent.
Alors, ça coûte pas cher, c'est pas vrai. La cohésion, c'est la prévention. Et la prévention, c'est toujours que comme on fait en sorte que les événements qu'on ne veut pas subir n'arrivent pas, on a du mal à les quantifier. Par contre, le jour où ça s'arrête, là, on s'en aperçoit. Et on voit bien le délitement social qu'il y a dans beaucoup d'endroits. Et ça coûte très cher. C'est du mal-être. On n'a qu'à voir la santé mentale des jeunes, quoi. Et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, si on veut parler que d'argent, de rien faire que de faire.
On imagine que la situation est très différente aussi selon qu'on est une grosse commune ou une plus petite, une commune rurale. Or, c'est important aussi dans ces territoires-là.
Bien sûr. On ne pourra pas avoir des salles de concert, bien entendu, dans toutes les communes de France, mais ce n'est pas grave. Il faut à la fois qu'il y ait de l'itinérance, d'une part, et puis qu'on ait le service du quart d'heure. C'est-à-dire qu'on sait que quand on doit se déplacer un quart d'heure pour aller pratiquer une activité culturelle ou sportive, on va même maintenant au-delà. La distance acceptable dans les pratiques, c'est une demi-heure. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça, favoriser bien entendu les mobilités, mais en même temps avoir des lieux, et ces lieux ils existent, mais il faut les soutenir. Il y a un fort développement, ce qu'on appelle les tiers-lieux, des lieux qui viennent un peu en substitution, moi je le dis souvent, du commerce qui a fermé, du bistrot qui a fermé. C'est des lieux qui sont tenus par des bénévoles, où s'installe une compagnie de théâtre amateur ou professionnel, puis se greffe un architecte, se greffe un chargé de mission, enfin, et ils partagent des locaux. Et ils font un petit marché local, ils vendent des produits locaux, ils créent un autre modèle économique. Et je pense que ces lieux, il faut les soutenir à la fois. L'État doit les soutenir, il le fait, il commence à le faire, mais il faut l'accentuer, parce que c'est ces lieux-là qui sont un peu les aimants de la société. Et dans les villes, c'est indispensable, dans les petites communes, que ces lieux puissent exister.
Mais ça veut quand même dire que vu qu'il manque de plus en plus de sous, en tout cas en haut, il va falloir trouver de nouvelles façons de financer. On parlait financement privé, c'est ces nouveaux modèles-là qu'il faut aller chercher.
Bien sûr, il ne faut pas se priver d'aller chercher des financement privé, ça existe beaucoup dans le sport, ça existe un peu moins dans la culture, mais moi je pense qu'il doit y avoir une régulation fiscale pour permettre justement qu'il y ait des égalités de traitement parce que autrement, si on laisse tout au privé, il y a des dérives. Ces grands concerts qui sont organisés maintenant, qui se font toute l'année maintenant dans les stades, il y a 80 000 entrées à 300 euros. Alors l'idée, c'est pas de les interdire, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait une fiscalité qui permette de prendre cet argent pour le redistribuer dans les petites salles. Et je pense qu'on peut pas tout laisser à l'initiative privée, parce que l'initiative privée, une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc si on laisse tout à l'initiative privée, ben, on aura des territoires où il ne se passera plus rien. Donc il faut qu'il y ait des régulations. Et la meilleure régulation qu'on ait inventée, c'est de mettre dans le pot commun. Ça s'appelle la fiscalité.
Olivier Peverelli, maire socialiste du Teil en Ardèche. Maire Pourquoi Faire, une série à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.